Bonjour frères et sœurs. C'est extraordinaire ce qu'il a dit. Vous allez savoir pourquoi. Vous allez savoir pourquoi, mais je ne veux pas vous le dire. Je vais simplement méditer, vous allez voir. D'abord, prions si vous voulez bien. Merci Seigneur pour les liens que tu mets entre nous et même dans les paroles qui sont dites. Et nous voulons te remercier de ce que nous formons le corps de Christ. Nous voulons te remercier aussi de ce que tu nous fais grandir. Nous qui sommes si petits, moi qui suis si petit, je veux te louer, Seigneur, notre Père, notre Dieu, pour le salut que tu donnes gratuit à chacun, aux petits comme aux grands. Amen. Et ils portaient leur fardeau, à Babylone. Ils portaient leur fardeau et on sait que le Seigneur a dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, lâchez vos fardeaux. » Il y a quelque chose qui est du même ordre dans Ésaïe que dans ce que Dieu dit au sujet des soucis qu'on se fait sur nos vies. Et parfois on est accablé dans une issue qui semble impossible. Et puis on se dit « Mais Dieu là, il ne va pas réussir, je ne vais pas réussir avec Dieu. » Et il nous a été dit, parce qu'elle nous a dit qu'effectivement Dieu est toujours là. Dieu, il est surprenant et parfois, je l'avoue, révoltant pour moi parce qu'il ne fait pas comme j'aurais voulu que ça se fasse. Et on a toujours à chaque fois des idées en disant, mais Seigneur, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer, c'est autrement. Et puis, petit à petit, quand on est petit, on comprend que papa et maman ont raison. Et puis, quand on est petit dans la foi, on comprend que papa, le papa, Abba, Père, est celui qui avait raison. Mais il faut regarder derrière et avoir fait un petit cheminement pour qu'on commence à comprendre qu'effectivement, Dieu avait raison. Mais je vous avoue que parfois, j'ose encore le dire, vous le confessez, je dis, mais Seigneur, tu n'as pas dans telle situation ou telle autre, tu n'as pas raison. J'ose le dire, c'est presque un péché, c'est sûrement un péché. Mais sincèrement, franchement, c'est ce qui m'arrive de dire. Aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble nous parlions avec vous du désir d'être grand. Vous savez, un petit enfant, vous avez été petit enfant, et vous l'avez peut-être dit ou jamais dit, mais en général, on l'a dit. On dit, quand je serai grand, je ferai ceci, je ferai cela. Je serai ceci, je serai cela. Pompier, ça c'est pour les garçons, ou soldat, je ne sais pas, pour les filles, je ne sais pas ce que ça peut être. Infirmière, je ne sais pas, présidente de la République, je ne sais rien, mais bon, on veut faire quelque chose et on projette vers l'avenir. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, au verset 33, que vous connaissez bien, nous apercevons que les disciples, eux aussi, désiraient être grands. Les disciples désiraient être grands. Au verset 31 de l'évangile de Marc, pardon, au verset 31, voilà que celui qui est le seul à être mature et adulte ne désire pas être grand. Vous le voyez dans Marc. Marc 9, verset 31. Il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. Et trois jours après, qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Jésus veut leur apprendre qu'il va, lui, être livré entre les mains des hommes, qu'ils le feront mourir, et que trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Et les disciples ne comprenaient pas, il nous a dit, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Vous comprenez, quand on ne comprend pas quelque chose, en se taisant, on peut réussir à faire croire qu'on a compris. En fait, ils n'avaient réellement rien compris. Mais c'était incompréhensible. D'ailleurs, nous, on serait à leur place, on aurait été à leur place, je pense qu'on aurait fait la même chose. Incompréhensible. Il montrait, en tant qu'homme pleinement mature, que être grand, c'est peut-être pas ce que nous imaginons. Parce qu'au verset 33, on s'aperçoit que durant le chemin qui sépare le monde de la transfiguration, hein, c'est à l'époque de cette histoire du monde de la transfiguration, où Jésus n'a pas l'air d'être petit. Hein. Il est lumineux, glorieux, et se présente avec les deux piliers de la Torah, Moïse et Élie. Et puis voilà qu'ils descendent du monde de la transfiguration, ils s'en vont vers Capernaum, et ils ont eu tout le temps de discuter de quelque chose de très important. Hein. Ils ont discuté d'un problème scabreux. Lorsque Jésus sera leur roi, ou le président, hein, hein, c'est comme vous voulez, hein, qui de nous tous sera le premier ministre? Je ne sais pas moi, mais ça vous plairait d'être premier ministre? Moi, ça ne me plairait pas. Surtout aujourd'hui, ça ressemble plus à une planche savonnée sur laquelle il est difficile de rester debout. Hein. Vous voyez? Ce n'est pas vraiment une situation de tout repos. Et eux, ils veulent premier ministre. Vouloir être grand, c'est bien. C'est peut-être bien, mais en regardant les disciples, nous voyons qu'il y a deux façons de vouloir être grand. Vouloir être grand pour être mature? Point d'interrogation. Vouloir être grand pour être vu? Avoir un nom? Se faire un nom? Nous voyons qu'il y a... Hein, c'est pas la même chose. Vouloir être grand. Qu'est-ce que ça signifie de vouloir être grand? Construire une tour à New York, à Paris, à Pékin, à Tokyo, à Babel, à Babylone? À Babylone, on a vu, ça ne donnait pas vraiment la situation de se faire un nom. Ils n'avaient plus de nom là-bas. Que recherche un enfant en voulant devenir adulte? Pouvoir tout comprendre, pouvoir tout admirer, pouvoir tout comprendre, être autonome, indépendant, pouvoir construire, être au service des autres, peut-être même au service de Dieu, être grand. Mais ça peut être aussi... Enfin, que recherche un enfant en voulant devenir grand? Être vu de tous, admiré de tous, être reconnu de tous, jouir de tout, avoir des gens à son service? Et même des esclaves à son service? Et que répond Jésus à ce genre de désir d'être le plus grand? Il répond, le Seigneur. Vous avez remarqué, ils veulent être tous le plus grand. Donc forcément, il y a plein qui vont être lésés et il y en aura un qui sera élu, si vous voulez. Hein. Il y aura peu d'appelés, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus dans ce système. Ce désir d'adulte peut néanmoins être considéré comme... positif, probablement louable, mais il est entaché d'un péché originel, celui de devenir le plus grand, le premier, être au-dessus. Alors, dans l'évangile de Matthieu, voilà que Jésus va nous surprendre. Il nous surprend, vous le savez bien. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est le même épisode, hein. Matthieu 18. Voilà que Jésus va faire du théâtre, un peu. Pas du théâtre dans le sens mensonge ou fiction, mais il va faire quelque chose qui me semble très important. Et nous allons lire. Nous voyons que Jésus touche dans leur cœur le problème fondamental de l'homme. Et nous le voyons donc à ce chapitre 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il plaça cet enfant au milieu d'eux. Ils étaient une vingtaine probablement, on ne sait pas trop. 1m60, 1m70 chacun, hein, en gros. Et puis un petit enfant de 80 cm à côté. Il le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire si vous ne changez d'attitude, si vous ne vous repentez pas, eh bien, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, et on l'imagine en train de faire un geste vers ce petit garçon ou cette petite fille, comme celui-ci, se rendra humble comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est incompréhensible, mais c'est ce que dit Jésus. Il sera le plus grand dans le royaume des cieux, celui qui se considère comme ce petit enfant. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même. Il fait un parallèle extraordinaire. Un enfant comme lui-même, lui, Dieu, le Dieu suprême. Et il ne s'arrête pas là. Et il nous dit quelque chose de sinistre, de gravissime, quelque chose qui est violent. On poursuit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Oui, le monde est plein de scandales. Vous ne pourrez jamais évacuer les scandales de ce monde. C'est ce que dit Dieu ici. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et après, il dit encore quelque chose de bien plus difficile à comprendre. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux manchot que d'avoir deux pieds, deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil, il est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la Géhenne. Mais c'est pas possible. Faudrait-il que... Ben, je serais déjà manchot, aveugle et je pourrais même pas vous parler. Hein? Parce que ça m'est arrivé de scandaliser. Je le confesse. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui est égarée? Nous voyons bien que le contexte de la réponse de Jésus à ses disciples, c'est bien cette histoire de conflit qui est le plus grand. Le plus grand dans le groupe à ce moment-là, c'était ce petit enfant. Debout. Je vous dis, 80 cm, peut-être moins. Au milieu d'une demi-douzaine, enfin non, pas une demi-douzaine, une douzaine, même plus, de personnes qui avaient une stature. Ils étaient quand même les disciples du maître important et qui étaient en train de discuter quelque chose de très important alors que Jésus venait de leur dire qu'il allait mourir et ressusciter. Qui est le plus grand parmi nous? Et ils avaient de bonnes raisons. Pierre, peut-être André, Jean, les premiers, hein, Pierre, Jacques et Jean, ils étaient les premiers, hein, autour de Jésus, puisqu'ils sont montés sur la montagne à trois avec lui. Donc si on peut s'imaginer déjà leur stratégie. Jésus descend, les disciples descendent tous ensemble, mais il n'y avait que trois quand même qui étaient près de Jésus, hein, sur la montagne. Donc c'est sûrement, le premier ministre, c'est sûrement dans les trois, quoi, en question. Hein. Vous voyez le système. Nous sommes capables, nous avons fait des choses avec Jésus, nous avons chassé des démons, nous avons fait des choses. Et donc, nous avons fait, et donc, à cause de ce que nous avons fait, nous sommes probablement éligibles. Voilà. L'image était saisissante. Le Seigneur, dans son discours, insiste particulièrement sur le cœur. Vous, les disciples, êtes-vous entièrement dégagés d'intérêt personnel? Au point d'avoir de l'égard pour n'importe qui, d'avoir un égard équivalent envers quiconque se présentera devant vous. Recevoir un enfant, se mettre à sa portée, c'est comme me recevoir et se mettre à ma portée. C'est lui, le maître, le Dieu suprême, qui dit ça. C'est difficile à concevoir. Moi, je vous avoue, c'est difficile à concevoir. Avoir cette façon de voir l'autre comme on voit Dieu, et sans qu'il y ait d'évaluation, vous savez, comme on fait aujourd'hui avec les missions qualité. Hein, et vous avez chacun forcément des coches qui ne sont pas les mêmes. Votre attitude, notre attitude peut être une source de vie, et je dirais même de résurrection, ou source de mort, de manière gravissime, au point qu'il serait plus positif de vous, de me supprimer, que d'exister. C'est ce qu'il dit, hein, vous avez remarqué. Ce serait peut-être plus intéressant et plus positif que celui qui scandalise n'ait jamais existé. Donc, Jésus met les disciples devant une situation qui n'avait pas l'air de les émouvoir. Ils n'avaient pas l'air d'être scandalisés comme Jésus est scandalisé de ce qu'ils étaient en train de parler en descendant du mont de la transfiguration. Voilà la prise de conscience adulte d'un homme parfaitement adulte, le seul homme parfait en ce monde. Voilà la réponse adulte à des gens qui veulent grandir. Pourquoi certains ont-ils besoin de se valoriser? Pourquoi luttent-ils? Ils luttent pour une couronne corruptible. Leur manque-t-il quelque chose? Certainement, sinon ils ne seraient pas en train de lutter, mais en train de se reposer. Je fais allusion à Hébreux chapitre 4, verset 10, où il nous dit que Dieu lui-même s'est reposé de ses œuvres. Alors nous aussi, empressons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Curieux, hein? C'est vraiment curieux. Dans 1 Corinthiens 3, 19, nous voyons autre chose. Là, on est un peu dans le style disciple, vous voyez. Enfin, disciple non converti, pas encore au Seigneur, hein, bien sûr, parce que ces fameux disciples, ils vont avoir une autre attitude plus tard, on le sait bien. Mais à l'époque de ce que Jésus... à l'époque où Jésus est intervenu de cette façon-là, ils n'étaient pas encore au Seigneur. Ils étaient proches. Hein? Mais les Corinthiens, ils étaient au Seigneur, eux. 1 Corinthiens 3, 19. Qu'est-ce qu'il dit ? La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne, donc, ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort. Soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Il semble donc que l'attitude mature d'une personne soit de rester calme, sans revendication, mais plutôt de goûter une paix parfaite, donnée par un Dieu qui donne gratuitement. Tout est à vous. L'apôtre Paul est en train de leur dire, vous êtes en train de vouloir acquérir quelque chose que vous avez déjà et dont vous n'avez pas conscience. Alors je dis vous, mais je dis moi, hein, bien sûr. Combien de fois m'est-il arrivé de ne pas, jouir de la réalité des choses, tout est à moi, tout est à toi, tout est à nous. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Lui-même ne s'appartient pas, il appartient à Dieu. Et en même temps, tout nous appartient. Voilà des ambiguïtés bizarres dans la parole de Dieu. Le plus grand parmi vous, c'est le plus petit. Et moi, Dieu, je suis au même niveau que les autres. Bon, c'est vraiment bizarre. Il semble donc que l'attitude mature d'une personne soit de rester petit, pour qu'un jour on puisse voir qu'il était grand. Mais c'est vraiment bizarre. Hein? Être petit, c'est être grand. Ah oui, je suis grand. Ah ben non, alors t'es devenu petit. Bon. C'est une espèce d'oscillation. Si j'ai conscience, si je me crois grand, c'est que je suis petit. Et plus petit que je n'imagine. Et celui qui se sait petit, sans le savoir, il est grand. C'est pourquoi, dans le même chapitre, dans la continuité de discussion de l'apôtre Paul à Corinthe, au chapitre 4, au verset 5, il dit, c'est pourquoi ne juger de rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra, hein, c'est 1 Corinthiens 4, verset 5, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, les choses profondes qu'il y a dans les cœurs de chacun. Tu ne peux pas savoir. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Tu ne peux pas savoir où en est un tel ou un tel. Reste tranquille, les choses se feront en leur temps. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due et là on pourra se réjouir de la louange qui sera dû à quiconque, à chacun. 1 Corinthiens 4, 5. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu fait que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous connaissez ces nobles, ça existe encore, des gens qui sont d'une certaine noblesse, moi je dirais. J'en ai côtoyé, je dirais des... au niveau de ma profession, par exemple, mais aussi on en voit dans le monde des gens qui ne la ramènent pas, quoi. Et puis on dit, oh, ils sont simples, ces gens. Oh, vous avez vu un tel, le consul bidule, l'ingénieur un tel. Oh, dis donc, il paye pas une mine. Et puis, quand tu discutes avec lui, tu dis, oh là là, il paye pas de mine, mais alors moi, qu'est-ce que je suis? Je suis vraiment tout petit par rapport à un tel. Parce que une profondeur de réflexion, de sagesse, selon ce monde, hein, mais qui suscite l'admiration, qui peut même nous amener à louer le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment capables, mais qui ne la ramène pas, quoi, comme on dirait. Hein, qui, voilà. Qu'est-ce qui te distingue? Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas? Vous voyez? Et donc, on sent qu'à Corinthe, il y avait ce genre de personnages. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi d'autres qui étaient certainement simples. Voilà. Je vous dis ça, ce n'est pas pour critique, hein, pour critiquer qui que ce soit ici en particulier, ce ne serait pas bien de ma part, et je ne fais pas du tout. Mais c'est pour donner un peu cet aspect de la notion d'adulte que vous sentez, j'imagine bien. Donc, celui ou celle qui a une grande maturité ne peut pas s'enorgueillir de l'avoir. Parce qu'alors il démontrerait son immaturité. Hein? C'est vraiment ambigu. Si quelqu'un, c'est d'ailleurs un homme du monde qui a dit ça, je crois qu'il s'appelait Debray, je crois. Il dit, l'humilité, c'est un bien vraiment très précieux et vraiment bizarre. Parce que dès que vous pensez l'avoir acquise, vous l'avez déjà perdue. Alors, qui peut prétendre être adulte en Christ? Moi qui vous parle, certainement pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je désirerais bien être un adulte en Christ. C'est-à-dire être conforme à Jésus-Christ. C'est lui le seul modèle de maturité qu'il nous faut prendre. C'est celui que vous désirez tous prendre, j'en suis convaincu. Être trouvé en lui, nous est-il dit dans Philippiens 3, 9. Être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Alors là, on dit, mais non, mais nous, on est des chrétiens, on n'a pas de loi. Hein. Hein, on est sortis de là, on n'est pas des juifs. Hein. Oh, écoutez, oui. Bon, moi, en tout cas, je me pose des questions quelquefois. Hein, je me fais des lois, hein, et j'en reconstruis. Alors que Dieu nous a affranchis de la loi. Il a payé. Ma justice qui vient de la loi. Mais je vais trouver en lui avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, conforme à lui dans sa mort, son type de mort, pour arriver à la résurrection d'entre les morts, si je le peux, il a dit. Il est assez humble, hein, l'apôtre Paul. Si je peux arriver à la résurrection d'entre les morts. Moi, j'ai l'impression, comme vous, chers frères et sœurs, qu'il va certainement ressusciter des morts, ce Paul en question, hein, d'entre les morts. La maturité, c'est quelque chose de curieux. Hein. Cette maturité que Dieu veut nous voir, avoir. La maturité, ça vient aussi, elle se prouve aussi par le regard que nous portons sur l'œuvre de Christ. C'est ce qui nous est dit ici. Justice par la loi ou par la foi? Quand c'est par la loi, c'est un peu ce que font les disciples en descendant de la montagne. Qu'est-ce que j'ai bien fait? J'ai dû faire des choses un peu plus importantes que toi pour être le premier ministre futur. Hein? Et on sent qu'il y a une notion de faire et que ici il y a une notion d'être. Es-tu en Christ ou fais-tu des choses pour Christ? Tu fais des choses pour Christ, pour être en Christ, ou tu es en Christ, et à ce moment-là, tu fais des choses parce que tu es en Christ. Vous vous souvenez de Jacques, l'épître de Jacques, qui nous dit, tu dis que tu as la foi, mais si tu avais vraiment la foi, ça se verrait par tes œuvres. Ça ne veut pas dire que les œuvres justifient la foi, elles sont la preuve de la foi. Être en Christ fait que nous agissons d'une certaine manière, qui montre que nous sommes en Christ, dans la foi, et non dans la fabrication de quelque chose. La maturité vient donc du regard que nous portons sur l'œuvre de Christ. Cette œuvre est-elle suffisante? Faudrait-il pas y ajouter un petit dièse ou un petit bémol, un tout petit complément, un astérisque? Après, ça fera un obélisque. Bon, bref. Si tu penses cela, si tu penses que cette œuvre de Christ n'est pas totale et parfaite, alors tu vas vouloir y ajouter un petit plus. Doctrinalement correct, hein? Des cantiques de tel type plutôt que d'un autre. Des prières formulées comme ça et pas comme ça. C'est subtil, cette histoire. Je le dis en tant que chrétien, moi. Dire que l'œuvre de Christ est parfaite et dire en même temps qu'on y rajoute une petite touche personnelle qu'on affirme inutile, mais à laquelle on tient. C'est finalement toucher à l'œuvre de Christ. Ce dont nous a parlé Pascal tout à l'heure, ce sont des idoles. Et je suis sûr qu'il est d'accord avec moi. Nos idoles à nous, elles sont très subtiles. Ce n'est pas un bout de ferraille qui est accroché sur un âne qui est en train de sortir de Babylone. C'est un bout de ferraille spirituel qui est accroché dans notre dos, nous qui sommes chrétiens, et qui avons, je le confesse pour moi-même, toujours, pas envie, mais une tendance à vouloir rajouter à l'œuvre de Christ. C'est comme ça, on est humain, et ça n'excuse rien, et il faut qu'on s'en rappelle. On a trop tendance à rajouter à l'œuvre de Christ. Faut pas faire l'achat, sinon on va faire de l'introspection et on va se fatiguer. Le Seigneur va s'en occuper. Je vais vous dire comment, ça se voit, vous le savez aussi. On le rappelle, je vais le rappeler avec l'épisode des sarments et du cèpe juste après. Alors l'apôtre Paul, lui, le juif judaïsant parfait, hein, c'était un parfait juif. Aujourd'hui, je pense que tout le monde dans le milieu judaïque serait content d'être comme Paul. Bon, il ne voudrait certainement pas se convertir. Comme Paul qui s'est converti sur le chemin de Damas, hélas. Mais voilà, il a renoncé à tout. A regardé tout ce qu'il possédait comme de la boue afin de gagner Christ, vous le savez. Et il dit dans Philippiens 3, verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous tous donc qui sommes des hommes faits, des hommes matures, hein, c'est ce que dit l'apôtre Paul, et je me demande s'il n'est pas un peu ironique en disant « Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. » Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Nous avions, à l'époque, que nous n'avons pas connu, des hommes de foi qui n'étaient pas des vedettes, qui n'étaient pas des stars, qui n'étaient pas sur un piédestal comme ça. Je ne sais pas si j'ai déjà évoqué ça avec vous, mais avant Constantin, en l'an 400, les gens se réunissaient ensemble et ils étaient en rond. Et tout d'un coup, parmi dans ce rond, il y en avait un qui se levait et qui donnait un message. Et puis après, il y en avait un autre qui s'étant assis, il y avait un autre qui. Mais nous avons même, je pense, c'est pas interdit, hein, je veux dire, mais nous ici, même dans notre structure d'assemblée, nous avons un système qui est comme ça, qui est pratique. Ça permet d'avoir un micro et pas de devoir le balader dans la salle. Mais vous voyez, il y avait à l'époque une certaine façon différente de faire. Marchons la même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, comme je le suis moi-même de Christ, le dit ailleurs. Hein. Mais il dit aussi, vous savez, l'apôtre Paul, il dit aussi, vous savez, soyez mes imitateurs. Il se pose en modèle. Hein. Et il dit, mais je ne suis pas le seul modèle. Vous comprenez? Il dit, j'ai d'autres modèles, il y a d'autres modèles. Et donc, prenons modèle les uns sur les autres, dans ce qui est de Christ, bien sûr. Il a donc été la preuve réelle d'une maturité obtenue uniquement par l'appréciation de l'œuvre de Christ. Dans Hébreux, au chapitre 5 et au verset 14, on ne sait pas si c'est de l'apôtre Paul, il est dit: la nourriture solide, elle est faite pour ceux dont le jugement a été exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, un homme, une femme mature, n'a plus besoin d'une codification mécanique religieuse. Pourquoi? Parce que il ou elle est enseigné à comprendre les Écritures par l'esprit et non par la lettre. Il comprend, et bien sûr, il ne fait pas comme Joachim de Flore, qui lui, au XIIe siècle, a dit: nous sommes dans l'économie de l'esprit, fermez votre Bible. Et l'esprit va vous parler tout seul, sans même aucune référence à quoi que ce soit. Vous voyez, ce genre de philosophie qu'on a aujourd'hui, ça date déjà du Moyen Âge. Hein. Non. Animé par l'esprit, il va être éclairé en lisant sa parole, la parole de Dieu. Donc un homme, une femme mature n'a plus besoin d'une codification mécanique, religieuse. Il est enseigné à comprendre les Écritures par l'esprit et non par la lettre. Il ne prend pas le texte biblique pour une recette de cuisine qui s'applique à tous les cas. Je vous donne un exemple. Romains 14, verset 3, vous connaissez, il y a des gens qui mangent des choses, du porc ou pas de porc, je ne sais pas moi, des chamallows ou pas de chamallows, tout ce que vous voulez, hein, bon, mais il y a des gens comme ça. Bon. Et alors, il nous est dit que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Les deux sont complètement antagonistes. On se dit, mais ils vont se bagarrer, ces gens-là. Et alors, il nous est dit, non, car Dieu l'a accueilli. Lui, Dieu l'a accueilli. Il t'a accueilli aussi, mais lui aussi. Au verset 11, il est écrit: je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. L'autorité en ce domaine, ce n'est pas la coutume culinaire ou la coutume de manger, vous l'imaginez bien, excusez-moi, ça paraît tellement simple, mais j'ose le dire quand même, mais c'est l'autorité du Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et tout peuple, toute langue donnera gloire à Dieu. N'est-ce pas? Chacun a ses coutumes, ses habitudes. On n'a pas besoin d'aller en Afrique pour avoir des coutumes, on en a ici aussi. Et vous allez dans tous les pays, dans toutes les ethnies, il y a des coutumes qui sont très belles. Elles n'ont pas à être jugées. Voilà, le problème, c'est quand tu commences à dire, non, ça c'est quoi? C'est comme ça qu'on chante. Ou c'est comme ça qu'on mange. Et c'est ce qui nous est dit ici. Toute langue donnera des gloires à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, et qui nous a été dit, pourquoi tu juges? Hein, bon, voilà. L'apôtre Paul ne veut pas que les chrétiens se chipotent pour des histoires d'autorisation alimentaire, ni pour des façons de voir le calendrier. Hein, dans Romains 14, c'était ça aussi. Il y avait des histoires de calendrier, la façon dont on voit le calendrier. Bon. Cela n'amènera aucune richesse supplémentaire à l'Église. Cela aurait plutôt, au contraire, l'effet de créer des ségrégations dans l'Église. Donc, pas de codification mécanique religieuse, je suis libre. Ah oui, je suis libre. Mais c'est là que je viens, si vous voulez, à cette histoire, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on a dit, c'est que il ne faut pas prendre la Bible pour une recette de cuisine. Donc, le fait de dire je suis libre peut être aussi une recette de cuisine. Je suis libre, alors à ce moment-là, eh bien, j'impose ma liberté. J'impose ma façon d'être. Mais même cela, c'est une recette. Même cela. Je suis libre, oui, mais je ne vais pas imposer cette liberté, car peut-être un jour je mangerai d'une certaine façon pour éviter de choquer une personne qui m'est chère. Je vais tenir compte de cette personne pour accepter de modifier mon comportement, parce que cette personne est plus importante que mon habitude religieuse. Voilà une sorte de jugement qui a été exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Vous voyez, il n'est plus possible de faire de codification. Ça ne justifie pas l'apôtre Pierre lorsque, quand il arrive à Antioche, vous savez ce qu'il fait ? Il mange avec les païens, puis d'un coup, il y a les juifs qui arrivent, et puis il ne mange plus avec les païens. Donc, vous voyez, c'est subtil cette histoire, mais c'est une histoire d'éclairage spirituel. Voilà. Dans Jean, chapitre 8, verset 36, il est dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, spirituellement libre. » Tu peux aller dans une mosquée. Peut-être que tu ne vas pas te prosterner et puis aller vers la Mecque, quoi, mais tu peux te sentir libre d'aller dans un café, même mal famé. Tu peux aller voir des endroits où il y a des prostituées sans qu'on te dise du mal de toi. Hein, William Booth, par exemple. Bon, il faut peut-être prendre certaines dispositions, avoir un costume qui permet de voir que si on va dans ces milieux-là, c'est pour la bonne cause. Il faut quand même peut-être spirituellement comprendre qu'il faut marquer un petit décalage avec la situation ambiante. On voit comment William Booth a jugé, c'est pas, ce qui était bien et ce qui était mal. Je suis libre, oui, mais voilà. C'est toujours quelque chose à juger avec le Seigneur. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Pourquoi la parole de Dieu ne pénètre pas en eux? En fait, Jésus explique aux pharisiens qu'ils ne veulent pas que Dieu décide pour leur vie, pour l'avenir du monde. Jésus leur explique qu'avec la Torah, ils ont inventé un autre système que celui de Dieu. Avec la Torah, ils ont réussi à faire quelque chose qui était contraire à Dieu. Vous imaginez, c'est quand même extraordinaire. Parce qu'ils s'estiment adultes. Ils se sont estimés adultes. Ils avaient la capacité de juger, vous imaginez bien. Ils connaissent la Torah depuis tellement longtemps. Alors, à cause de cette belle invention, qui n'a rien à voir avec le projet de Dieu, ils ont changé de cap. Ils ont changé de camp. Ils ne sont plus dans le camp de Dieu en croyant y être. Verset 43. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» dit Jésus. « Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été le meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Et voyez, il essaye de les secouer avec amour, en fait. Il est en train de leur dire qu'ils ont pour père le diable, ce qui est vrai, mais ce n'est pas une insulte. C'est juste un truc pour les aider à sortir de ce carcan qu'ils se sont construits, un système qui, normalement, était de Dieu et qu'ils ont fait dévier pour qu'il devienne leur système à eux. Et il dit, vous pouvez me convaincre de péché ? Et là, ils ne peuvent pas. Ils pouvaient se remettre en question. Et Jésus a fait tous les efforts possibles pour réussir à les remettre dans le bon chemin, dans leur intelligence. Pourquoi ne me croyez-vous pas ? qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Et alors, Jésus, on sait qu'il sait ce que font les gens. Et donc, il dit, qui me convaincra de péché? Il sait que ces gens savent qu'ils ne peuvent pas le convaincre de péché et que certains sont convaincus qu'il vient de Dieu, comme Nicodème. Et il dit, si je dis la vérité, sous-entendu, vous savez très bien que je dis la vérité. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il y a une question de saisissante ici. L'adulte, c'est celui qui sait qu'il ne l'est pas pour qu'il puisse devenir adulte. C'est fou, hein, mais c'est ça. Être adulte en Christ, c'est donc renoncer à inventer autre chose que ce que Dieu a donné. C'est même plus que renoncer, c'est reconnaître que les projets de Dieu ont la priorité. Le projet de Dieu a la priorité sur mes propres projets. J'ai le droit d'avoir des envies, j'ai le droit d'avoir des idées, des projets. C'est normal, car Dieu m'a conçu ainsi. Dieu a conçu tous les hommes et toutes les femmes avec des capacités à décider, à prévoir, à construire, à faire des projets merveilleux. Mais par-dessus tout, Dieu désire que nous mettions son projet en premier. Fais de l'Éternel tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Le projet, Dieu. Puis comme par hasard, le fait d'être dans le sens de Dieu fait que, finalement, ce projet que j'avais et qui devient annexe, Dieu me l'autorise. C'est extraordinaire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Et dans Job, là il y a quelque chose de plus curieux, c'est dans Job. Au chapitre 17, vous connaissez, il y a quelque chose de curieux à souligner, c'est quoi? C'est à un moment donné, au chapitre 17, Job, il pleure, hein, vous savez, il est vraiment dans la détresse, il n'y a plus qu'une chose qu'il veut, c'est mourir, mais avant de mourir, il veut comprendre l'injustice qui lui arrive, et la façon dont Dieu traite son affaire. Et on le comprend tout à fait. On a même du mal à le comprendre, mais on comprend sa façon. Et il dit, quoi? Mes jours sont passés. Je vais mourir, quoi. Hein. Mes jours sont passés. Mes projets sont anéantis. Les projets qui remplissaient mon cœur. Mais à votre avis, Job, il avait des mauvais projets? Moi, je suis sûr que non. Cet homme était vertueux. Il avait plein de projets. Peut-être qu'il voulait créer une ville avec en mettant de l'arrosage, en mettant un hôpital pour qu'il y ait des gens malheureux qui puissent. Il devait certainement avoir des super projets, ce Job. Et puis, il est à la fin de sa vie, enfin, il pense qu'il est à la fin de sa vie, et il voit que Dieu a anéanti ses projets. Et Dieu est en train de lui dire, tes projets, ils passent après. Ils sont peut-être vertueux, ils sont peut-être les plus merveilleux qu'il faut, mais ce sont tes projets. Dieu, il veut que son projet à lui passe en premier. Dieu apprend à Job qu'au-delà de ses propres projets, il y a d'autres projets qui sont d'une dimension bien plus grande que les siens. Et renoncer à ses projets, ce n'était pas vraiment le désir des pharisiens. Ils avaient d'autres visions, elles étaient contraires à celles de Dieu, et certains le savaient bien. Ils le savaient très bien. Et c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. On sait que Dieu a raison. Et on va continuer à faire son truc. Annexe à Dieu. Juste, pas la pierre angulaire, vous voyez, mais juste une pierre angulaire à côté, quoi. Et on s'imagine que ça va fonctionner. Et puis non, ça ne peut pas fonctionner. Mais moi, toi, tu désires faire le projet de Dieu, n'est-ce pas? Ne t'est-il jamais arrivé de réfléchir sur la condition du sarment attaché au cep dont parle Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Je vais te donner ma façon de voir. Tu pourras en rigoler, tu auras le droit. Bien sûr, Jésus donne la vie à tous dans ce monde. Hein? Les sarments improductifs, ce sont ces gens-là. Ils ne sont pas convertis, ils ont la vie. Mais ce sont des personnes inconverties qui, bien entendu, ne donnent pas de fruits. Un jour, le divin vigneron, clic, il coupe ses sarments qui ne servent à rien. Mais lorsque Jésus parle des sarments qui portent du fruit, Ne vous est-il jamais arrivé de penser ceci? Seigneur, tu pourrais me faire grandir sans avoir besoin de m'émonder? Sans avoir besoin de me tailler? Je suis sûr, Seigneur, que tu aurais été capable de faire de moi un serment parfait dès le départ. Un peu ce que disait Maïtena, hein. L'histoire de l'effort du papillon qui doit sortir, c'est dans l'ordre de Dieu, hein. Et si on veut l'aider, si on fait tout à sa place, ça ne marche pas. J'aurais alors été un serment parfait dès le départ. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas fait adulte dès le départ? On aurait gagné du temps, toi et moi. Nous voyons que Dieu ne raisonne pas comme ça. La croissance de son enfant passe par la taille, par la souffrance, par des situations négatives que nous aimerions éviter. Des situations inconfortables qui nous semblent improductives. En fait, il nous est dit, et c'est Paul qui le dit à Timothée, pour l'encourager, peut-être qu'il s'étonnait, Timothée, d'être dans la souffrance. Il lui dit en tout cas, Paul, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est presque un postulat de base. Nous voyons cela dans le verset 16. Hein? Dans le verset 12 de 2 Timothée chapitre 3, pardon. On n'y coupe pas, hein, c'est le cas de le dire. On n'y coupe pas cette histoire. Clic, clac. Il y a forcément des émondages qui se passent dans ma vie et dans la tienne. Et quelques versets plus tard, au verset 16 de ce même chapitre, 2 Timothée 3, 16, nous voyons là le processus de taille du divin vigneron. Le processus de taille du divin vigneron, c'est 2 Timothée 3, 16. Et vous connaissez, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour tailler, pour émonder. Ça, c'est moi qui rajoute, hein, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adulte, mature, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Cela ne veut pas dire que le petit bobo n'est pas une persécution. Vous comprenez ce que je veux dire? Toi, oh, c'est un petit bobo que tu as. Moi, je passe par des épreuves énormes. Voilà comment ça marche, quelquefois. D'ailleurs, qu'est-ce qui me permet de juger, comme un petit bobo, la persécution que subit l'autre? Qui est-ce qui me permet de le faire? Romains chapitre 15 nous dit, nous qui sommes forts, et ça encore c'est l'apôtre Paul qui le dit de manière, à mon avis, ironique, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous complaît, ce qui nous plaît. Que chacun de vous plaise au prochain, pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi, les outrages de toi, mon Père, sont tombés sur moi. Et nous, ben on fait la même chose. Hein. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous comprenons qu'être adulte en Christ, ça veut dire qu'on ne méprisera jamais les souffrances de l'autre. Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Il a enduré la honte, lui, l'homme pleinement adulte. C'est lui notre modèle. Dans Éphésiens 4, 15, Éphésiens chapitre 4, verset 15, l'adulte en Christ arrive à dire la vérité en aimant. Vous avez déjà vu ça? Ça vous arrive de dire la vérité en aimant? C'est toujours très difficile pour nous, en tout cas c'est pour moi difficile, de dire la vérité sans agressivité. Quand on est dans la vérité ou qu'on veut dire la vérité, vous avez remarqué que c'est toujours un peu difficile. En professant la vérité dans l'amour, hein, je reviens sur Éphésiens 4, 15, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et dans Galates, chapitre 6, verset 1, il nous est dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, vous voyez que là encore, il écrit avec un petit sourire, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Ah, c'est difficile la relation, hein. Et quand je dois être en relation à l'autre, comment je suis, adulte ou enfant, ça se verra. Donc, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Oh, c'est un petit bobo ton truc, tu sais. Oh, mais non, mais moi je suis passé par là, tu sais, je sais ce que tu dois faire, etc. Enfin, vous voyez, je vous dis ça, je confesse mon péché là, hein, vous voyez. Bon. Portez les fardeaux les uns des autres. Les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Vous voyez, il y a donc toujours ce même principe. Ça s'appelle l'humilité, mais c'est la lucidité, je dirais. Parce que quand on dit l'humilité, comme le disait ce politique, celui qui pense avoir acquis l'humilité l'a déjà perdue, c'est comme s'il fallait l'acquérir. Et on sent que ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas acquérir l'humilité, c'est avoir la lucidité que Dieu donne sur soi-même et sur les autres. Il s'abuse lui-même, celui qui pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien. Galates, chapitre 6, verset 1. Que chacun s'examine, examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge, c'est-à-dire pas son fardeau, puisque le fardeau a été abandonné à la croix, hein, mais sa propre charge, sa propre responsabilité, sa future récompense au tribunal de Christ. Nous comprenons que être grand, être adulte, en Christ, par le Christ, cela passe par une attitude, un comportement qui n'est pas construit et fabriqué à partir d'un code de politesse ou de n'importe quel autre code. Cette attitude n'est pas le fruit d'une éducation, mais le fruit d'un état d'esprit. Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Christ a présenté un petit enfant comme modèle. Christ a renoncé à tout. Christ a souffert la croix, méprisé l'ignominie en vue de la joie qui lui était réservée. Hébreux 12, 2. Christ était dans la paix. Il y est toujours. Tout est à nous. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Christ est dans le repos et Christ est dans la liberté. Il peut manger avec les prostituées et les gens de mauvaise vie. Il l'a fait. Il peut boire du vin et manger avec les pharisiens. Il garde sa maturité, campé sur la certitude que personne ne le convaincra de pécher. Et nous, on peut le dire aussi, parce que c'est lui qui a payé pour nous. Il peut dire qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Nous sommes également dans cette situation. Tout est à nous, nous sommes à Christ, Christ est à Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, être adulte en Christ, c'est être comme les disciples, mais pas comme les disciples quand ils se faisaient concurrence pour savoir qui serait le premier ministre, mais plutôt comme les disciples devenus apôtres, qui ne cherchaient aucunement à se concurrencer l'un l'autre et qui se portaient mutuellement leur fardeau. Hébreux chapitre 4, verset 10, il nous est dit, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu est dans le repos puisque lui, il est adulte. Hébreux chapitre 5, verset 11 nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. C'est quelqu'un qui parle aux Hébreux, peut-être l'apôtre Paul ou quelqu'un d'autre. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est-à-dire que cet homme qui écrit l'épître aux Hébreux dit, mais c'est curieux quand même que finalement c'est difficile à expliquer pour vous. Comment ça se fait? Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Je reviens à ce que j'avais dit. Les Hébreux, destinataires de la lettre aux Hébreux, étaient retournés à un système de codification hébraïque. Ils avaient trouvé préférable d'être des enfants que des adultes en Christ. Mais nous, chers frères et sœurs, nous pouvons vivre une vie pleine et entière, c'est-à-dire une vie de liberté en Christ. C'est la seule façon d'être dans la liberté, l'égalité et la fraternité. L'Évangile est le seul ciment sociétal possible tant en France que dans tous les autres pays du monde. Et la France souffre d'un manque de liberté, parce que les gens sont esclaves de leur péché. La France souffre d'un manque d'égalité, parce que les gens veulent tous être Premier ministre. La France souffre d'un manque de fraternité, parce que les gens ne savent pas que l'amour n'existe qu'en Christ. Prions pour que se lèvent dans notre pays des ouvriers envoyés par Dieu dans sa moisson. Nous prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, tu veux que nous soyons adultes, mais adultes à ta façon, c'est-à-dire que nous redevenions des petits-enfants. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu nous ramènes toujours à ton sacrifice, à l'œuvre parfaite que tu as accomplie, qui nous évite de rajouter des choses à ton évangile. Seigneur, je te confesse que c'est difficile parfois pour moi de le faire, d'être un enfant. Être un enfant non pas prétentieux, croyant savoir tout, mais un enfant dans le sens qu'il veut être mature en toi.